Chapitre 67. Chagrin de cœur mêlé d'argent. Quelle était cette résolution que Pétrus venait de prendre? Peut-être allons-nous la trouver dans l'une des deux lettres qu'il avait écrites. Commençons par celle qu'il avait adressée au boulevard des Invalides. « Ma bien-aimée Regina, excusez-moi si je quitte Paris pour quelques jours sans vous avoir vu, sans vous avoir rien dit, ni par lettre, ni de vive voix de ce départ. Un événement inattendu, mais qui n'a rien d'inquiétant, je vous l'affirme, me force à accompagner mon père à Saint-Malo. Laissez-moi vous dire que, pour vous rassurer complètement, que ce que j'ai orgueilleusement qualifié d'événement est tout simplement une affaire d'intérêt. Seulement, cette affaire d'intérêt concerne, permettez-moi ce blasphème et pardonnez-moi de l'avoir dit, cette affaire d'intérêt concerne la personne que j'aime le plus après vous, mon père. Je dis cela bien bas, Regina, de peur que Dieu ne m'entende et ne me punisse de vous aimer plus que celui qui devrait avoir mon premier amour. Si vous avez autant besoin de me dire que vous m'aimez que j'ai besoin de me l'entendre dire, et si vous voulez, non pas me faire oublier, mais me faire supporter votre absence par une de ces lettres dans lesquelles vous savez si bien m'envoyer une portion de votre âme, écrivez-moi, poste restante, à Saint-Malo, mais pas plus tard qu'aujourd'hui ou demain. Je ne compte rester absent que le temps absolument nécessaire au voyage et à l'affaire qui m'appelle là-bas, c'est-à-dire 6 jours en tout. Faites qu'à mon retour, je trouve une lettre de vous qui m'attende. Oh, j'en aurai bien besoin, je vous le jure. Au revoir, ma bien-aimée Regina. Mon corps seul vous quitte, mais mon cœur, mon âme, ma pensée, tout ce qui aime en moi, enfin, reste auprès de vous. Pétrus. Maintenant, voici ce qu'il disait à Salvator. Mon ami, avec le même aveuglement et la même obéissance que vous auriez pour une des dernières recommandations de votre père mourant, faites, je vous prie, ce que je vais vous dire. Au reçu de ma lettre, prenez un commissaire-priseur et venez chez moi. Faites faire l'inventaire de mes chevaux, de mes armes, de ma voiture, de mes tableaux, de mes meubles, de mes tapis, de tout ce que je possède, enfin. Gardez-moi seulement ce qui est nécessaire aux stricts besoins de la vie. L'inventaire dressé, faites estimer chaque chose, puis faites faire des affiches et annoncez dans les journaux, ceci est, je crois, de la compétence de Jean Robert, annoncez la vente d'un mobilier d'artiste. Fixez-en le jour au dimanche 16 courant, afin que les amateurs aient le temps de visiter les objets sur place. Tâchez que le commissaire-priseur auquel vous vous adresserez ait l'habitude d'estimer et de vendre des objets d'art. Il me faut de mon mobilier 35 ou 40 000 francs. À vous, mon cher Salvator, ex imo corde Pétrus. Postscriptum, payez mon domestique et congédiez-le. Pétrus connaissait Salvator. Il savait qu'à son retour, toutes choses seraient faites comme il le désirait. En effet, lorsqu'il revint, le 6e jour après son départ, il trouva l'affiche sur la porte et une procession de curieux montant et descendant son escalier. Cette vue lui serra le cœur. Il n'eut pas le courage de rentrer dans son atelier. Un petit corridor conduisait directement du palier à sa chambre. Il entra dans sa chambre, s'y enferma, s'assit avec un profond soupir et laissa tomber sa tête dans ses mains. Pétrus était satisfait de lui-même et fier de la résolution qu'il avait prise. Mais cette résolution, il ne l'avait pas prise sans lutte ni sans brisement. On devine ce qu'il était allé faire là-bas et quelles étaient les intentions de son retour. Là-bas, il était allé pour empêcher que la ferme de ce bon et excellent père, ce dernier débris qui restait de la fortune du capitaine, ne sortît de ses mains. Il était allé assurer un abri au dernier jour de celui à qui il devait le jour. C'était là chose facile à faire, et elle s'était faite sans même que le vieillard s'en doutât. Le notaire avait déchiré l'acte factice, et Pétrus avait dit adieu à son père, appelé près du lit de son ami mourant. Puis il était arrivé à Paris pour accomplir la seconde partie, et, disons-le, la partie la plus difficile et surtout la plus douloureuse de sa résolution. Pétrus s'était décidé à vendre, comme nous l'avons vu, chevaux, voitures, meubles, tableaux, potiches du Japon, bahuts de Flandre, armes et tapis, pour payer ses dettes. Puis, ses dettes payées, à se remettre au travail comme un écolier en loge pour le Grand Prix de Rome. Certes, en renonçant à ses folles dépenses et surtout en employant à ce travail le temps qu'il perdait, non pas même à voir, mais à essayer de voir Regina, Pétrus était bien sûr de ramener sa vie à une meilleure situation, comme art et comme argent. Ce serait lui alors qui pourrait venir en aide à son père, et non plus son père qui serait obligé de se dépouiller jusqu'au dernier lambeau pour nourrir le luxe insensé de son fils. Sans doute tout cela, c'était la logique, c'était la droiture, c'était la raison. Mais il n'y a rien de si dur ni de si difficile que de suivre la raison, la droiture et la logique. Voilà pourquoi, la plupart du temps, on ne les suit pas. En effet, vendre tout ce charmant luxe des yeux dont on s'était fait une si douce habitude pour se retrouver entre quatre murailles nues, était-ce donc une chose qui se pût faire de gaieté de cœur? Non, c'était une situation navrante et l'on n'en pouvait sortir que par un chagrin poignant. La pauvreté en elle-même n'effrayait nullement Pétrus. Sobre par nature, économe pour lui, il eut grandement, ou plutôt il avait grandement vécu avec 5 francs par jour. N'eût été Regina, il ne se fût nullement soucié d'être riche. N'avait-il pas dans le cœur les 3 grandes richesses de la création, la richesse du talent, de la jeunesse et de l'amour? Mais c'était précisément sur son amour, c'est-à-dire sur l'âme de son âme, qu'allait directement et peut-être mortellement peser sa pauvreté. Hélas, la femme qui se jetterait au feu pour nous plaire, qui risquerait sa vie et sa réputation pour venir, comme Juliette donnée à son Roméo, attendant sous le balcon du jardin un nocturne et furtif baiser, cette femme souvent ne laisserait pas tomber sa main aristocratique dans une main mal gantée. Et puis allez donc suivre à pied dans la boue de la rue la voiture de la femme que vous aimez. Allez donc attendre son passage à pied sur le revers d'une des allées du bois, quand vous l'avez croisée la veille encore, montée sur un magnifique cheval sortant des écuries de Drake ou de Crémieux. En outre, la pauvreté attriste, elle déteint en quelque sorte sur les visages les plus frais et les plus robustes. Le front du pauvre garde l'empreinte des soucis de la veille et de l'insomnie de la nuit. C'est naïf, c'est enfantin, c'est ridicule aux yeux du philosophe, ce que nous allons dire, mais cette douloureuse pensée de ne pouvoir désormais arriver dans son coupé ou dans un tilbury à la soirée où Regina était venue, elle, dans sa calèche, de ne plus pouvoir la croiser à cheval sur les boulevards extérieurs où il l'avait rencontrée pour la première fois ou dans les allées du bois de Boulogne qu'il la voyait passer tous les jours, cette pensée, en dépit de tous les philosophes de la terre, remplissait de tristesse le cœur de Pétrus. À la vérité, les philosophes ne comprennent pas l'amour, et la preuve, c'est que dès qu'ils sont amoureux, ils ne sont plus philosophes. Comment ensuite faire une figure convenable dans les salons du faubourg Saint-Germain, ces salons si épineux aux gentilshommes pauvres, et où il était reçu, lui, Pétrus, à titre non pas d'homme de talent, mais de gentilhomme de vieille noblesse. Le faubourg Saint-Germain ne pardonne à un gentilhomme d'avoir du talent qu'à la condition qu'il ne vivra pas de son talent. Sans doute Pétrus, outre le boulevard où il rencontrait Regina, outre le bois où il la croisait, pouvait encore parfois la voir chez elle. Mais les rencontres dans le monde étaient le prétexte de ces visites-là. Et puis chez elle, outre que Pétrus ne pouvait la voir fréquemment, il la voyait rarement seule. C'était tantôt Monsieur de la Motte-Houdan, tantôt la marquise de la Tournelle, Abeille toujours, Monsieur Rapt quelquefois. Monsieur Rapt qui le regardait d'un air renfrogné et qui, à chaque rencontre, semblait lui dire du regard « Je sais que vous êtes mon ennemi mortel, je sais que vous aimez ma femme, mais tenez-vous bien, je vous surveille tous les deux. » Oui, par Dieu, oui, votre ennemi intime, oui, votre ennemi mortel, l'ennemi du mal, Monsieur Rapt. Eh bien, tous les bénéfices de la fortune, toutes les jouissances du luxe, tous les avantages de la richesse, Pétrus les avait eus pendant 6 mois, et tout à coup, il fallait y renoncer. Nous le répétons, la situation était navrante. Oh, pauvreté, pauvreté, que de cœurs près d'éclore tu as moissonné, que de fleurs de l'âme écloses tu as fait tomber sous ta faux et disperser au vent. Car, pauvreté, sombre déesse, tu as le souffle et la faux de la mort. Il est vrai que Regina n'était pas une femme ordinaire, peut-être. Vous savez ce qui arrive aux voyageurs perdus dans les catacombes, aux voyageurs qui, écrasés de fatigue, assis sur une pierre creuse, sur un ancien tombeau, le front couvert de sueur, regardent et écoutent avec angoisse s'il ne verra pas une lumière, s'il n'entendra pas un bruit. Il entrevoit une lueur, il perçoit un son, il se lève, peut-être, dit-il. Il en était ainsi de Pétrus. Il venait de voir briller une lueur dans le souterrain sombre. Peut-être, avait-il dit à son tour, à plus de fausse honte, la première fois que je la verrai, je lui raconterai tout, et mes sottes vanités et mes richesses d'emprunt. Plus de faux orgueil, une seule vanité, une seule gloire, travailler pour elle et mettre mes succès à ses pieds. Elle n'est point une femme ordinaire, et peut-être, peut-être qu'elle m'en aimera mieux. Oh, belle jeunesse, à travers laquelle l'espérance passe comme le rayon de soleil à travers le cristal. Oh, charmant oiseau qui chante la douleur quand il ne peut plus chanter la joie. Sans doute, Pétrus, se dit-il, à l'appui de cette résolution, beaucoup d'autres choses que nous ne répéterons pas ici. Disons seulement que, tout en causant ainsi avec lui-même, il quitta ses habits de voyage, prit un élégant costume du matin et se rhabilla à la hâte. Puis, sans entrer dans son atelier où il entendait craquer les bottes et s'entrechoquer le dialogue des visiteurs, il descendit l'escalier, mit la clé de sa chambre chez le concierge qui, en échange, lui tendit un petit billet que Pétrus, à la première inspection, reconnut pour être de l'écriture de son oncle. Celui-ci l'invitait à dîner pour le jour même où il serait de retour à Paris. En effet, le général désirait savoir sans doute si la leçon avait profité. Pétrus chargea le concierge d'aller, à l'instant même, à l'hôtel de Courtenay, annoncer à son oncle qu'il était de retour et qu'il aurait l'honneur d'aller lui demander de ses nouvelles à 6 heures précises.